Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir Léana, bonsoir à tous. Effectivement, on va parler football, championnat de France de Ligue 1, la Ligue des Champions aussi qui approche à grands pas pour le Paris Saint-Germain. Du rugby au sommaire de cette émission avec la Champions Cup et la Challenge Cup. Pas de top 14 le week-end dernier. Et puis du cyclisme aussi puisqu'il y avait une course mythique, le Tour des Flandres ce week-end. Et pour parler de tout ça autour de la table, Pierre Forest, Ryan Lachny et Ricardo Baroni. Merci messieurs, bonsoir.
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 Merci une fois de plus d'être avec nous dans une semaine sportmidable. On va ouvrir cette émission avec le rugby. Pierre Forest, vous nous disiez hors antenne, Champions Cup, Challenge Cup, deux compétitions européennes, internationales. Maintenant, expliquez-nous un peu comment ça se passe, ces compétitions-là.
Alors, ce championnat européen des clubs, on va dire ça comme ça, c'est le deuxième après la compétition qui est organisée pour les clubs de l'hémisphère sud. Hein, c'est-à-dire, on a connu le Super 12, le Super 14 dans l'hémisphère sud, avec des équipes néo-zélandaises, les meilleures équipes australiennes et les meilleures équipes sud-africaines. La Champions Cup est issue un petit peu de ce championnat d'Europe. Alors, on a connu il n'y a pas si longtemps deux poules de 12, hein, c'est 24 clubs concernés. Et comme les championnats ne se ressemblent pas d'un pays à l'autre au niveau notamment des 5 pays qui disputent le tournoi des 6 nations, exempté l'Italie, je reviendrai là-dessus après. La répartition se fait avec les deux plus gros, c'est-à-dire les Anglais et les Français, ils ont 8 qualifiés d'office, c'est-à-dire les 8 premiers du top 14 français, du top 14 anglais, on va dire ça comme ça. Et puis le reste, il y a 3 clubs du championnat d'Écosse, 2 clubs du championnat d'Irlande, 1 club du championnat du Pays de Galles, et puis depuis 2 ans, 3 ans, la venue des équipes sud-africaines, donc 3 clubs sud-africaines. Donc c'est 24 équipes au total, sont réparties en poules de 4, en 4 poules de 6 maintenant. Donc ça
avec
fait
deux, les... En général, il y a 2 clubs voilà. Français dans chaque poule.
Et dans le règlement précis, il est interdit à deux clubs du même championnat de se rencontrer en match de poule. Donc ce qui fait qu'au bout de la 4e journée, il y a les 16 qui sortent, les 16 premiers qui sortent, de 1 à 16, c'est numéroté. Et puis là, ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale qui a eu lieu donc, ce week-end.
Ce week-end. Alors parmi les rencontres, justement, parmi ces 8e de finale.
Et ceux qui ne sont pas qualifiés, ils sont reversés dans ce qu'on appelle la
pas
Challenge
tous,
Cup.
Ceux qui terminent 3e.
Voilà,
3e de Champions Cup sont relégués en Challenge Cup. Si on le compare au foot, c'est la Ligue des Champions
exactement.
Et l'Europa League pour les connaisseurs
exactement.
De plus
c'est
de football.
C'est assez compliqué. Hein, mais...
C'est assez compliqué, effectivement, il faut suivre. Et justement, on va suivre ce qui s'est passé. Ce week-end, il y avait 4 clubs français qui disputaient les 8e de finale de la Champions Cup, donc la grande coupe d'Europe. L'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, a écrasé les Tigers de Leicester, 64-14. Le Stade Toulousain, on peut le dire la même chose, a écrasé Bristol, 59-26. Défaite du Castres Olympique sur la pelouse des Saints de Northampton. Les Saints qui étaient finalistes l'an passé, défaite de justesse, 41-49 pour le Castres Olympique. Et puis Toulon, qui s'est imposé d'un petit point sur les Stormers. Les Stormers qui sont une franchise sud-africaine, 28-27 pour Toulon, donc on aura 3 clubs français en quart de finale et on aura également un club français en demi puisqu'en quart on aura le droit à un choc. Pierre Forest, c'est UBB Toulouse.
Alors autant sur ce week-end là, les 8e de finale, autant les 2 équipes de l'UBB et de Toulouse, on s'y attendait un petit peu vu les performances qu'ils alignent depuis quelques années maintenant, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. Là où on s'y attendait un peu moins, c'est la défaite honorable de Castres qui perd de quelques points simplement contre le finaliste du Champions Cup de l'année dernière qui avait perdu Northampton, qui avait perdu contre l'UBB
contre Bordeaux-Bègles
avec son joueur un peu qui comment il s'appelle déjà le blanc là qui cause un petit peu un problème que ce soit quand il joue en équipe d'Angleterre ou même en club. Pocock, je crois, il me semble, qui s'appelle. Et puis, la performance revient surtout à Castres d'avoir failli éliminer, puisqu'il jouait quand même à l'extérieur, Northampton. Et puis Toulon, c'est la surprise, puisque Toulon est très mal placé en top 14. Ils sont 11e.
Ils sont en bas du classement. Ils performent en Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils ont fait le choix de jouer la Coupe d'Europe plutôt que le championnat?
Là, le retour de Mignoni, leur coach, après quelques semaines, un peu, il était... il était un peu
en off
là. Donc, je crois que ça fait du bien et à Toulon. Donc, on espère qu'ils auront une meilleure fin de saison. Il reste 6 matchs du top 14, donc ils auront une meilleure fin de saison. De là à gripper une qualification dans le top 6, ça sera difficile. Mais déjà en Coupe d'Europe, éliminer une équipe, les Stormers d'Afrique du Sud, c'est déjà un bel exploit.
Vous parliez de l'anglais, c'est Pollock.
Pollock,
et on voit parmi les 8 dernières équipes donc encore en lice à la Champions Cup, on a 3 clubs français, donc je le disais, Bordeaux, Bègles contre le Stade Toulousain, ce sera une très très belle affiche, hein, puisque sur les 20 dernières rencontres, 13 victoires toulousaines, 7 de l'UBB, à chaque fois il y a eu des matchs en finale, en demi-finale de top 14, de Champions Cup, les deux équipes ont l'habitude de s'affronter à ce niveau-là.
C'était déjà la demi-finale de l'an dernier, hein, où l'UBB avait largement dominé Toulouse, hein, le score, je me souviens plus, mais il était à peu près un écart de 15 points en gros, hein, entre les deux clubs, et puis ce qui avait permis à Toulouse de prendre sa revanche en finale de top 14 ensuite, donc ça va se jouer cette fin de saison, que ce soit en Coupe d'Europe ou en top 14, je pense qu'il ne faut pas aller chercher bien loin, qui va parmi les deux, il n'y a que ces deux clubs qui peuvent prétendre au titre, que ce soit européen ou national français.
Parce que en France, il y aura Bordeaux et Toulouse forcément dans les phases finales, et puis en Champions Cup, face à eux, ils pourraient tomber face à Bath, Northampton, Glasgow contre Toulon, du coup, en quart de finale, et puis il y aura aussi le Leinster contre les Sale Sharks, derniers représentants.
L'affiche va être intéressante, c'est Bath, Angleterre contre Northampton. Northampton, quand même, est le finaliste de l'an dernier, qui ne tourne pas bien en ce moment en championnat, mais je pense que sur les phases finales, ils peuvent créer une surprise. Et puis, ne pas oublier Glasgow. Glasgow qui reçoit Toulon. Alors, Glasgow, c'est un club écossais. Avec un maximum d'internationaux. Je sais que la seule défaite qui n'a pas permis aux 15 de France cette année du Grand Chelem, c'est l'équipe d'Écosse quand même. Donc attention à cette équipe de Glasgow qui va jouer à domicile et qui va peut-être être.
Compter sur ses internationaux et se qualifier pour les demi-finales, voilà. Qui pourraient affronter donc le Leinster ou les Sale Sharks, je disais, les derniers représentants sud-africains dans cette Coupe d'Europe, ancienne Coupe d'Europe.
Il y a quand même sur cette fin de saison de la Coupe d'Europe, ce qui faisait la force du 15 Irlandais. Ils avaient deux clubs, en fait, c'est deux provinces, c'est Leinster et Munster, où il y a tous les internationaux, ils sont dans ces deux clubs-là. Et puis, on a vu un petit peu le déclin, entre guillemets, hein, de cette équipe nationale irlandaise au dernier tournoi des Six Nations. Et là, on voit qu'il y a seul Leinster est qualifié pour les demi-finales, les quarts de finale, alors que le Munster, qui est maintenant reversé en Challenge Cup,
et a été éliminé en 8e de finale, on va en parler justement.
Là aussi, on voit à travers ces résultats des clubs aussi les résultats des équipes nationales. Et puis on parlera aussi de la qualification d'un club italien.
On va en parler de la Challenge Cup,
de Zebra, de Parme, là, qui a éliminé Pau quand même. Donc c'est pas rien.
Voilà. C'est pas rien, justement, Pau qui avait fait un très bon début de saison, qui est un peu aussi sur le déclin en ce moment, qui fait des rencontres un peu victoire-défaite, qui n'arrive pas à enchaîner plusieurs victoires consécutives. Et on l'a vu encore une fois en Champions Cup,
Certains clubs de top 14 feront aussi le choix simplement d'envoyer les équipes dites réserves pour préserver un petit peu, ne pas risquer les blessures, parce que le top 14 il y a 6 journées et puis les places vont être chères pour les top 6, donc ceci explique aussi cela peut-être.
Justement, alors sur cette Champions Cup, Pierre Forest, votre avis, votre pronostic sur ces quarts de finale, est-ce que un club français peut aller au bout cette année encore, parce qu'on le rappelle, hein, depuis 2021 la Coupe d'Europe reste en métropole, Toulouse en 2021, La Rochelle en 2022-2023, Toulouse en 2024, l'UBB en 2025, encore une fois 2026, c'est pour un club français.
C'est surtout dommage que de voir les deux ténors du top 14 s'affronter en quart de finale, hein, c'est vraiment dommage, Toulouse et Bègles, donc ça va être encore un match au couteau, donc on voit aussi sur... Au top 14, Toulouse a 6 points d'avance sur le deuxième. UBB, malgré un début de saison un peu raté, est remonté maintenant à la 4e place, me semble-t-il. Donc, est encore qualifiable pour la suite. Donc, ça va être encore un, je pense, sauf accident. Accident, ça veut dire qu'on peut rencontrer
les finalistes de l'an passé, soit Northampton en demi-finale.
Soit Northampton ou même Glasgow. Attention à Glasgow quand même.
Ricardo Baroni, je me tourne vers vous. Cette Coupe d'Europe de rugby, forcément, on voit les clubs français performer. Un petit mot, vous aussi, vous les voyez aller loin, ces Français, encore une fois, l'UBB, le Stade Toulousain, c'est en métropole, mais aussi en Europe, c'est les équipes qui font rêver.
Oui. Ça fait rêver, surtout quand on écoute Pierre. Mais moi, je suis principalement tout ce qui est équipe nationale, tout ce qui est club et tout. Je regarde pas trop, surtout qu'actuellement, tout ce qui concerne cyclisme, ma passion, on est très, très occupé par toutes les courses qu'il y a un peu partout.
Et on va parler justement d'une très grande course qui s'est déroulée ce week-end. On en parlera juste après. Un petit mot sur la Challenge Cup. C'est la seconde division des Coupes d'Europe. C'est la Ligue Europa du rugby. Avec, là aussi, 5 clubs français engagés en 8e de finale. Ça s'est moins bien passé puisqu'il y a seulement 2 qualifiés pour l'écart. Montpellier et La Rochelle. Exactement. Montpellier et La Rochelle. Le MHR qui a écrasé l'USAP à domicile. Les Montpelliérains qui sont quand même assez impressionnants. 53-13. Une première mi-temps un peu limite, qui laisse jouer, qui regarde, et finalement deuxième mi-temps Montpellier déroule. C'est un peu comme en championnat, on s'attendait peut-être pas à les voir aussi bons en fin de saison.
Alors personne n'attendait Montpellier en début de saison, et puis c'est vrai qu'ils font une première partie de championnat qui est un petit peu mi-figue mi-raisin, et là sur la deuxième partie de championnat ils sont en train, c'est un peu ils font peur à tout le monde, hein, que ce soit quand ils se dépassent même à l'extérieur, sauf dernier week-end où ils ont été battus à Toulouse. Bon là. Mais je veux dire, de Montpellier, que ce soit en Coupe d'Europe avec cette qualification pour les quarts de finale et en championnat, va être au top sur la fin de saison.
Montpellier qui en plus une voix, il disait une voix royale, qui peuvent recevoir jusqu'aux demi-finales, qui reçoivent Connacht en quart et qui pourra affronter La Rochelle à domicile.
Ils devraient passer la barrière du Connacht en quart de finale et puis se retrouver en demi-finale contre alors La Rochelle
ou l'Ulster.
Voilà, La Rochelle essayer de se refaire une cerise. Hein. La Rochelle a disparu un petit peu des radars depuis 2 saisons maintenant. Hein. Il se passe quelque chose au sein du club rochelais. Et là, avec cette qualification pour les quarts de finale en Coupe d'Europe, ça peut-être les remettre d'aplomb, surtout qu'il y a beaucoup d'internationaux qui vont aussi jouer leur place en équipe de France pour la tournée post-saison en top 14, hein, avec une nouvelle compétition, hein, qui sera la Coupe des Nations, d'après ce que j'ai compris. Mais Montpellier, comme La Rochelle, pourquoi ne pas les retrouver tous les deux en finale
Ce sera plus en demi-finale du coup, puisqu'ils sont dans la même partie de tableau.
En demi-finale, ouais, ils vont se retrouver.
Un club français en finale. Voilà. Et puis de l'autre côté du tableau, on aura Benetton, Exeter, les Dragons contre le Parme, vous le disiez, les Zébras de Parme. Voilà, les
Italiens
qui sont là.
Par contre, il y a deux ténors du top 14, Pau, la section paloise et le Stade français, à mon avis, ils ont perdu, ils ont été éliminés, mais ils ont dû faire jouer un petit peu les doubles.
Ils ont un petit peu fait tourner, effectivement.
Pour faire tourner, pour garder un petit peu tout le jus pour la fin du top 14.
Parce que là aussi, on parlait en Champions Cup de cette coupe qui reste souvent en métropole, qui est souvent remportée par les clubs français. La Challenge Cup, c'est pareil, hein, 2019, 2016, Montpellier 2016, 2021, Toulon 2023, Lyon 2022, Clermont en 2019. Malheureusement, les deux dernières années, c'est parti en Afrique du Sud, mais c'est aussi parti au Royaume-Uni. Un club français qui remporte la Challenge Cup aussi, c'est possible. Montpellier, La Rochelle... font office de favoris.
Il y a du costaud là. C'est deux clubs qu'on devrait voir en Champions Cup, mais bon, ils ont été reversés en challenge. Donc, faut pas oublier non plus que les gains sont importants. Hein. C'est juste un petit point sur les gains sur les 4 demi-finalistes sur la Champions Cup. C'est 550 000 euros par club dès lors qu'ils atteignent les demi-finales. Donc, c'est pas rien. C'est toujours bon à prendre pour des clubs professionnels avec des effectifs plus ou moins importants et surtout avec des salaires plus ou moins importants également.
On suivra alors ces quarts de finale de Champions Cup et de Challenge Cup. Ce sera à suivre le week-end prochain. Je rappelle, en Champions Cup, la grande coupe d'Europe, Union Bordeaux-Bègles contre Stade Toulousain, le Toulon, RC Toulon, qui sera sur la pelouse de Glasgow. Et puis en Challenge Cup, Ulster-La Rochelle et MHR-Connacht. Ce sera donc, je le disais, le week-end prochain. Il est l'heure de parler cyclisme sur Radio Rythme Bleu, puisqu'il y avait, on l'a dit à plusieurs reprises déjà au début de cette émission, une course mythique ce week-end, la 111e, si je ne dis pas de bêtises, édition du Tour des Flandres. Déjà, avant de donner le vainqueur, avant de une nouvelle fois parler du Slovène Tadej Pogacar, cette course, Riccardo Baroni, 278 km, c'est une course mythique, qui est exceptionnelle et qui n'est pas donnée à tout le monde. Ils étaient 175 au départ, il n'y en a que 120 qui ont franchi la ligne d'arrivée.
Oui, ça a très mal commencé par un équipier de Tadej Pogacar qui est tombé d'entrée. On lui a coupé la route et il n'a même pas fait un kilomètre. Donc l'équipe de Pogacar, dès le départ, a été pénalisée pour tout ce qui est stratégie et se préparer à combattre tous les adversaires. C'est une course, le Tour des Flandres, où quand vous écoutez le public ou les coureurs, il y a du public du départ jusqu'à l'arrivée. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les passionnés de vélo. Leur objectif, c'est d'aller à cette course et vraiment de vivre cette journée exceptionnelle. Surtout qu'une semaine après, il y a l'enchaînement avec Paris-Roubaix, qu'on pourra en parler tout à l'heure. Donc ça a été une très très belle course. Au niveau stratégie, c'était aussi assez passionnant pour la simple raison que Pogacar, au lieu d'attendre les adversaires qui commencent à l'attaquer, ben, c'est lui qui a pris la course en main à 100 km de l'arrivée. Il a déjà commencé à faire une sélection, donc évidemment, beaucoup de ses adversaires étaient un peu surpris et un peu piégés pour revenir à l'avant, et donc 100 km de l'arrivée, déjà il n'y avait plus beaucoup de coureurs, et petit à petit, ben, il y a eu une sélection qui s'est faite par l'arrière, quoi.
Ryan Lachini, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une surprise de voir Tadej Pogacar attaquer aussitôt? C'est pas la première fois qu'il attaque. Alors à 100 km de l'arrivée, c'est pas régulier, c'est pas tous les jours, mais c'est un peu sa nouvelle manière de faire, d'attaquer assez loin et de priver les autres d'attaquer avant.
Je pense que ça a toujours fait partie de son ADN d'être offensif, et d'autant plus maintenant qu'il a pris la confiance avec autant de victoires et autant de, comment dire, il écrase. Du coup, je pense qu'il a pris encore plus de confiance, et ce qui était à prévoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le Tour des Flandres cette année, il y avait une des plus grosses start lists qu'on pouvait espérer depuis le début de saison, avec quand même Remco, Wout van Aert, et voilà. Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Du coup, je pense que ça lui donne encore plus envie d'attaquer de plus loin pour montrer et pour faire la sélection et pour montrer que c'est lui le plus fort parmi tous ses favoris, quoi.
Alors ces favoris que vous citez, ils sont tous dans le top 5, top 10. Tadej Pogacar qui met 34 secondes à Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel à 1 minute 11, Wout Van Aert à 2 minutes 04, on a Mats Pedersen à 2:48. Le premier français, Christophe Laporte, il est 9e à 5 minutes 22. Ricardo Baroni, trop fort encore une fois Tadej Pogacar.
Ben moi j'ai trouvé que c'était pas comme d'habitude, il était pas si fort que ça, parce que pour lâcher Mathieu Van Der Poel, il l'a lâché on va dire dans la dernière montée, et pas facilement, quoi. Ça veut dire que Mathieu Van Der Poel, chose qui m'a énormément surpris, a pris des relais pour éviter que quand ils avaient lâché Remco Evenepoel, qui puisse rentrer sur les deux premiers. Donc certains disent qu'il n'aurait pas dû prendre les relais à Tadej Pogacar pour jouer la gagne. D'autres, ils disent qu'il l'a bien fait, ce sont des champions, et au niveau tactique, eh ben, on règle à la pédale le résultat final. Donc on l'a vu lâcher Mathieu Van Der Poel, mais ça n'a pas été si franc comme ça a été dans d'autres courses. Par exemple, on a eu Milan San Remo où il l'a lâché sans discussion. Là, ça a été un petit peu plus... ça a été un peu plus joué pour cette victoire. Et puis quand il s'est fait lâcher, pendant un certain moment, il est resté pas loin, hein, entre 4-5 secondes. Et puis après, évidemment, ça s'est creusé d'un coup. Mais je trouve qu'on a eu du suspense jusque vers la fin. Et puis, comme disait Ryan tout à l'heure, d'avoir les quatre fantastiques, parce qu'ils sont surnommés comme ça, les quatre premiers, qui viennent faire cette course, ça promet vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et tous les passionnés l'ont dit, Paris-Roubaix, ça reste l'objectif numéro un à regarder, pour la simple raison que Tadej Pogacar fait toujours une sélection dans tout ce qui est dénivelé, dans les montées. Là, Paris-Roubaix, il n'y a pas de montée, c'est tout plat, ça va être du pavé, donc ça va être quelque chose au niveau stratégique assez intéressant à voir. Maintenant, Tadej Pogacar s'est fixé l'objectif cette année de gagner les cinq grandes courses qui sont donc de mémoire Milan-San Remo.
Ça c'est fait.
Ça c'est fait, tout à fait. Tour des Flandres,
c'est fait aussi. Il n'en reste plus
donc,
que deux.
il reste trois. Il reste Paris.
Oui,
voilà, il reste Paris-Roubaix. Il reste Liège-Bastogne-Liège et il reste le Tour de Lombardie. Il faut savoir que ça fait 4 qui gagnent de suite, puisque si on compte l'année dernière, en fin de saison, il a gagné le Tour de Lombardie.
Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie, Milan-San Remo, Tour des Flandres, c'est la première fois qu'un coureur en gagne 4
Tout à fait, ouais, c'est donc ça nous permet, je pense, du beau spectacle pour Paris-Roubaix. Ce qui était exceptionnel et assez bizarre avec Tadej Pogacar, c'est que depuis le début de saison, saison, il a fait 3 ou 4 courses et il les a toutes gagnées, quoi. Donc, il a eu l'Estrade Bianche, il a eu Milan-San Remo et maintenant Tour des Flandres. Donc, il a tout gagné, il fait 3 sur 3. Un peu comme Mathieu Van Der Poel en cyclocross, mais lui, c'était plus. Hein. C'était 13 sur 13, lui.
Ryan Lachny, je me pose cette question. Dernière fois qu'un coureur remportait 3 monuments d'affilée, c'était Eddy Merckx en 71-72. Vous, le grand fan de cyclisme, comment on compare ces grands champions? Eddy Merckx a été le roi de son époque. On a aussi un roi aujourd'hui, Tadej Pogacar. Comment on compare? Est-ce qu'on peut les mettre à la même hauteur, les deux?
C'est pas les mêmes époques, mais oui, c'est les mêmes victoires et les mêmes palmarès. Même, je pense que Pogacar a peut-être encore un peu plus de temps devant lui pour aller faire peut-être même mieux qu'Eddy Merckx. Du coup, ouais, on peut dire que c'est, comme Eddy était prénommé Eddy Merckx, le cannibale. Je pense qu'on peut aussi dire ça de Pogacar, et je pense qu'il n'a pas fini. Je pense qu'il peut faire mieux qu'Eddy Merckx.
Est-ce qu'il y en a qui peuvent l'arrêter sur les prochaines courses? On le disait, on va le donner, les prochains rendez-vous sur lesquels sans doute sera aligné Tadej Pogacar. Il y aura le Paris-Roubaix, il y a Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, je ne sais pas lesquels. Je n'ai pas le programme de tous les coureurs, mais est-ce que sur ces courses-là, il y en a un qui peut aller le titiller, le grappiller? On voit là, il met 30 secondes, 1 minute, 2 minutes à ses concurrents. On dit qu'il y a un top 4, mais il y a un top 1 et un top 2 à 4 derrière.
Oui, je pense qu'il y a des outsiders qui peuvent l'empêcher d'atteindre ses buts, notamment sur Paris-Roubaix. Comme Ricardo l'a dit, il est plus autant sur son terrain que d'habitude, parce que Paris-Roubaix, il y a très peu de dénivelé,
beaucoup de pavés,
c'est pas les mêmes pavés que le Tour des Flandres, et là ça reste plus le terrain de jeu de Mathieu Van Der Poel, qui est beaucoup plus habile sur le vélo et beaucoup plus lourd, et ce qui aide vraiment à passer ce type de pavé. Du coup, je pense que Mathieu Van Der Poel peut être un des plus gros obstacles de Tadej Pogacar pour aller gagner le Paris-Roubaix. Et sur les autres courses, on garde Vingegaard qui reste là sur les courses à étapes, et même Remco qui peuvent aussi barrer la route à Tadej Pogacar.
Même question, Ricardo Baroni, on est d'accord là-dessus? Mathieu Van Der Poel, principal adversaire sur le Paris-Roubaix?
Oui, c'est vrai. Pour la difficulté de la course, mais je voudrais et je souhaite rappeler que Tadej Pogacar a gagné Milan-San Remo d'une demi-roue. Donc là, déjà, ce jour-là, il avait un adversaire qui était Pidcock, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc on espère que sur Paris-Roubaix, on ait aussi un suspense de ce genre. Il faut savoir que Paris-Roubaix de l'année dernière, les deux étaient échappés. Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel, et il a fait une erreur d'estimation, on va dire, dans un virage, Pogacar, et il est tombé, et c'est comme ça qu'il, quand il est reparti avec un certain écart sur Mathieu Van Der Poel, et qu'il a fait deuxième de Paris-Roubaix. Maintenant, c'est un de ses principaux objectifs, hein. Il l'a dit en début de saison, c'était Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Milan-San Remo s'est passé, maintenant on va voir Paris-Roubaix, comment ça va se passer pour Tadej Pogacar. Ce qui est surprenant pour cette nouvelle génération, on va dire, de cyclisme, c'est qu'un coureur comme Tadej Pogacar est capable de gagner un Tour de France, un Tour d'Italie, et d'aller se mesurer aux meilleurs coureurs de classique, et ça, c'est assez, je trouve, exceptionnel.
Sur ces classiques, justement, parlons un peu des Français. On l'a dit, le premier Français sur ce Tour des Flandres, c'est Christophe Laporte, 9e à 5 minutes 22. Romain Grégoire, lui, 22e, 6 minutes 24. Où sont les autres? Comment on peut juger les performances des tricolores sur ce Tour des Flandres?
Ben, au niveau des classiques, les Français, ils n'ont pas de très très grands coureurs actuellement. C'est plutôt sur les courses par étapes qu'ils ont des coureurs capables d'aller jouer la gagne. Il y a eu Lenny Martinez qui a fait deuxième au classement général d'une course dernièrement, qui a gagné la dernière étape devant Jonas Vingegaard de Paris-Nice. Donc c'est vrai que sur les classiques, au niveau des coureurs français, c'est assez compliqué. Il faut savoir que Laporte a été arrêté presque 2 ans pour un problème de santé, donc il revient tranquillement. Laporte avait gagné dans le passé des classiques, là il est dans une grande équipe, mais on voit que dans son équipe, Wout Van Aert est très très fort, donc je pense qu'il doit se mettre d'abord à son service, quoi.
Justement, même question pour vous, Ryan Lachny, sur les Français. Forcément, on les suit quand ils sont sur des courses exceptionnelles comme le Tour des Flandres. On espère un peu plus, ou on se dit qu'il y a un plafond de verre, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont 9e, ils sont dans le top 10 et c'est déjà très bien.
Bien sûr qu'on espère qu'ils puissent faire un petit peu mieux. Après, on sait très bien que sur les classiques, on n'a pas de phénomène comme les 4 fantastiques qui ont été cités précédemment. Du coup, on espère juste faire... faire des podiums ou des choses comme ça, ou qu'ils soient présents sur, sur les finales et qu'ils animent, mais on sait très bien qu'ils ne sont pas actuellement en capacité d'aller gagner sur ce genre de monument.
Même une réponse à ça, Ricardo Baron.
Oui, je me rappelle qu'il y a Kevin Vauclin qui a fait deux fois deuxième à la Flèche Wallonne. Donc, qui sait, peut-être ça va être le premier coureur qui va gagner une course de cette envergure.
Et les hommes, avant de marquer une pause, les hommes pourraient prendre aussi exemple sur les dames, avec Pauline Ferrand-Prévot qui termine deuxième, juste derrière Demi Vollering. C'est la deuxième année consécutive qu'elle termine deuxième.
Oui, et après l'année dernière, elle avait gagné Paris-Roubaix, mais cette année elle le fait pas. Donc l'année dernière, on sait Pauline Ferrand-Prévot, la saison qu'elle a faite avec un super Tour de France. On va voir cette bonne augure pour le futur.
Merci beaucoup Ricardo, on va espérer du coup sur ces prochaines courses des podiums, des victoires, des belles performances tricolores hommes mais aussi femmes, donc Paris-Roubaix notamment le 11 avril, ça arrive très vite, c'est comme la Champions Cup et la Challenge Cup, c'est dans les prochains jours. On marque une pause et on parlera football juste après, 17h30 sur Radio Rythme Bleu.
RRB, la pub. Le Tout Info continue avec la BCI. 10 000 francs offerts jusqu'au 30 avril pour l'ouverture d'une convention Bagnant. Sous condition. Détails en agence ou sur www.bci.nc. Offre réservée aux nouveaux clients particuliers.
RRB, 16h, 19h, le Tout Info.
Il est 17h30 et on retrouve tout de suite Léo Fichou pour la deuxième mi-temps de votre semaine sportmidable.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
De retour pour la seconde mi-temps donc d'une semaine sportmidable. Ricardo Baroni, en quelques secondes, me rappelait qu'on avait oublié un petit mot quand même pour signaler que Paul Sexa s'était engagé sur le Tour du Pays Basque, c'est ça ?
C'est ça, qui commence cette nuit avec beaucoup de favoris. Et en plus, c'est une course par étapes avec énormément de dénivelé. Donc on va voir comment il peut gérer ça. Je pense qu'à la fin du Tour Pays Basque, ils vont décider s'il va faire le Tour de France ou pas. Et donc, c'est intéressant à regarder. Je conseille aux gens de regarder parce qu'il y a beaucoup de concurrents comme Del Toro, comme Almeida, Ayuso. Et donc, il y a des concurrents qui seront présents pour contraster sa facilité du début de saison.
Il n'y aura pas Pogacar pour venir l'embêter et qui lui laissera peut-être un petit peu de place sur ces étapes-là.
Ni Vingegaard.
Très bien pour Paul Sexa sur le Tour du Pays Basque qui démarre donc ce soir, la nuit prochaine pour nous. 17h30, un petit mot de football. On accueille sur le plateau Johan Sidaner, sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir.
Bonsoir Léo.
Merci de nous rejoindre dans cette émission. Retour du Mexique il y a quelques jours. Vous disputiez les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Calédonie face à la Jamaïque. Une défaite 1-0. Est-ce qu'on peut revenir sur cette rencontre, mais aussi sur ce que vous avez vécu autour? Parce que j'imagine que pour tout le groupe, c'était quelque chose d'assez exceptionnel ce voyage au Mexique.
Oui, en effet, c'était une magnifique aventure pour tout le groupe et surtout pour le football calédonien. Oui, on s'est incliné, on n'ira pas plus loin, mais effectivement, une semaine après le retour, on est encore sur notre petit nuage.
Un petit nuage parce qu'on l'a vu sur les images, les vidéos, les réseaux sociaux. Tout le monde a parlé de la Nouvelle-Calédonie, ici, en métropole, partout dans le monde, même au Mexique. On voyait des publications de Mexicains qui étaient fiers de supporter. On entendait, quand on a suivi le match, tout le monde chantait pour la Nouvelle-Calédonie. Vous y attendiez à ça ?
Non, pas du tout. On ne s'y attendait pas. On s'est préparé à tout ce qui pouvait arriver sur le plan sportif. Après, effectivement, au niveau médiatique, et on a été, on va pas dire qu'on a été dépassé par l'événement, mais effectivement, on s'attendait pas à un tel
engouement derrière l'équipe.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il a manqué sur cette rencontre ? Parce que vous aviez les supporters avec vous, vous aviez le football aussi un peu pour vous, mais voilà, un but de la Jamaïque a fait la différence.
Alors, on essaye d'être lucide et faut se rendre compte quand même de l'écart qu'il y avait avec la sélection jamaïcaine. On est, je le rappelle, on est 150e au niveau classement mondial, au niveau FIFA, et eux étaient 70e dans ce classement. Et effectivement, on va dire que la logique a été respectée.
Logique respectée aussi après le match, puisque vous disputiez les demi-finales. La Jamaïque s'est qualifiée pour la finale de ses barrages face à la République démocratique du Congo. Victoire après prolongation du Congo. Est-ce que n'y a pas un petit sentiment de dire on aurait peut-être pu faire plus ou aller titiller le Congo?
Bon, bah après, c'est la vie, c'est mon avis personnel en tant que coach. Moi, de mon côté, on pense avoir vraiment fait tout ce qui était en nos possibilités. Et il me semble qu'on a déjà élevé notre niveau. Après, c'est vrai que le groupe et les garçons affichaient quelques regrets, parce que quand on arrive là, les émotions aidant, effectivement, les garçons se sont vus, pourquoi pas continuer l'aventure.
C'est des garçons, on en avait parlé avant, il y a quelques jeunes qui viennent grappiller des places, mais il y a aussi beaucoup d'anciens qui ont connu pas mal de compétitions avec la Nouvelle-Calédonie, notamment dans la région. Maintenant, c'est places qualificatives pour la Coupe du Monde, des compétitions, des matchs amicaux en Europe. Les anciens sont encore là pour longtemps ou ça risque de changer? Comment ça peut se passer?
Mais vous savez, il y a rien d'écrit. On n'est pas devin. Chaque garçon, en tout cas, qui était dans le groupe est à nouveau sélectionnable. Personne n'a vraiment clairement affiché sa retraite sportive. Donc effectivement, les garçons, encore une fois, après avoir vécu de telles émotions et une telle aventure sportive, chacun a plutôt envie de continuer.
Il y en a un qui démarrait cette aventure en Nouvelle-Calédonie, c'était Angelo Fulgini, ancien joueur notamment du RC Lens, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément. C'est un joueur professionnel qui a apporté aussi à l'équipe. On l'a vu très vite s'intégrer sur les différentes images, les photos. On le voyait comme s'il avait été là depuis toujours.
C'est la force du groupe aussi, de savoir mettre dans les bonnes dispositions les que ce soit les plus jeunes ou les nouveaux. En tout cas, effectivement, il s'est bien intégré. Encore une fois, de ce côté-là, on peut faire confiance à ce groupe de joueurs. De manière générale, c'est un peu aussi les valeurs du pays. Donc, effectivement, après, il a beaucoup d'expérience et s'intégrer dans un groupe, encore une fois, c'est assez facile dans ce cas-là. Puis c'est un garçon vraiment avec des valeurs et des qualités humaines qui font que le mariage s'est bien déroulé.
Alors, certains joueurs sont déjà revenus sur le territoire prêts à jouer la Super League, d'autres sont retournés dans leurs différents clubs. Et entre-temps, il y a la Ligue 1 aussi qui a repris, parce que forcément, nous, on a un œil sur tout, on est obligé de suivre toutes les compétitions. J'imagine que vous aussi, vous avez suivi les derniers résultats. Parlons un petit mot de ce championnat de France. Tout est relancé, toutes les cartes sont rebattues, le Paris Saint-Germain qui reste loin devant, mais derrière, on ne sait plus trop qui peut aller où. Le RC Lens, est-ce que le RC Lens va rester second? Vous avez un peu suivi cette journée
sûr,
de Ligue 1?
Bien sûr, ce week-end, c'est vrai, effectivement, les places, notamment pour la Ligue des Champions, sont relancés avec ces résultats. Ils sont 5 équipes en 3 points, il me semble. Donc effectivement, il reste
6 journées.
Il reste 6 journées exactement. Et tout peut arriver encore.
Alors on va rappeler un peu le classement de ce championnat de France de Ligue 1. Paris 63 points avec un match en retard qui doit jouer contre le FC Nantes. On a Lens 59 points. Lille désormais 3e avec 50 points. Les Lillois qui ont écrasé Lens dans le derby du Nord 3-0. Victoire un peu surprise, hein, Ricardo Baroni. 3-0, Lille sur Lens. Le derby du Nord, c'est pas les tours cyclistes, mais c'est du football, c'est de l'enjeu.
Oui, c'est un enjeu particulier. Moi, je regarde principalement l'OM, pour la simple raison qu'ils avaient avant un entraîneur italien qui est parti. Et donc, voir comment le nouvel entraîneur est en train de redresser la barre de cette équipe. Eux qui visent évidemment une qualification en Champions League directe. Ils veulent pas passer par des qualifications. Donc il y avait aussi l'équipe de Lyon qui était en pleine bourre, pour dire ça, pendant une période, et que maintenant ils ont un peu de difficulté à marquer. Donc c'est vrai que ça, le suspense est ouvert à nouveau, sauf pour la victoire. Je pense que le PSG est largement en tête et a une structure vraiment au-dessus de la moyenne au niveau des joueurs pour avoir grosso modo une équipe qui joue la Champions League et une équipe qui joue le championnat.
Oui, je vois... Sourire, faire un signe d'acquiescement.
Lens paraît vraiment décroché dorénavant. Et puis, on n'oublie pas non plus la bataille pour ne pas descendre. Et effectivement, encore un week-end sans pour le FC Nantes.
Oui, le FC Nantes qui a fait. C'était un match nul. Match nul contre Metz, 0-0, les deux derniers qui s'affrontaient. Bon, le Nantes qui n'a pas pris d'écart et qui ne revient pas sur Auxerre malgré le match nul d'Auxerre. Oui, Ricardo Baroni, vous avez suivi ce bas de classement
oui,
aussi.
Oui, quand il parle de Nantes, ça me rappelle Comboiré. Et ma question, elle était, est-ce qu'il a eu des consignes, ou pas des consignes, mais des conseils de ses joueurs internationaux pour ce match de qualification qu'il est allé faire avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie?
C'est vrai qu'on a eu des petits messages collectifs de la part d'Antoine ou de Christian, et puis à titre personnel,
Christian
c'est
Carambeu,
vrai que, Christian Carambeu, pardon, Christian et Antoine Comboiré, donc des messages plutôt collectifs pour le groupe. Et puis depuis que je suis maintenant sur le Caillou, j'ai une relation un peu privilégiée avec ces coachs qui effectivement, sans parler de conseils, parce qu'ils se défendent de faire de l'ingérence, ou ils ont cette humilité pour pas trop s'insérer dans notre réflexion, mais en tout cas, effectivement, toujours des petits mots très, très, très sympas et toujours bien avisés.
Et vous parliez d'Antoine Comboiré, qui est donc l'entraîneur du Paris FC désormais. Match nul, là aussi, pour le Paris FC contre Metz. Si je dis pas de... Non, c'était contre Lorient, excusez-moi. Oui, contre Lorient. Un but partout contre Lorient. Auxerre, Le Havre, un but partout aussi. En bas du classement, pas mal de matchs nuls. Ça piétine en bas du classement. Comment on peut voir cette fin de saison pour tous les clubs qui luttent pour le maintien? Notamment, on va peut-être éviter Nice, qui est déjà à 27 points. Auxerre, 23. Nantes, 18. Et Metz, 15. Ça va se jouer entre ces quatre-là, Yonti Danner?
Ouais, encore une fois, ça se crispe un peu. Mais on peut voir que des équipes comme Nice peuvent être en difficulté. Auxerre peut peut-être repasser devant. Voilà, ça va jouer sur ces deux places. Et puis après, vraiment, c'est les places européennes. Quant à Paris, maintenant, je pense qu'ils peuvent avoir la tête à la Ligue des Champions jeudi matin.
Jeudi matin, justement, contre Liverpool. Ricardo Baroni, vous en parliez avant d'entrer en plateau, en studio. C'est un match important, une revanche pour les Parisiens.
Une revanche pour les Parisiens, je pense pas, puisqu'ils se sont qualifiés l'année dernière. Mais Liverpool, je pense qu'ils vont arriver avec les crocs. Surtout que Salah, c'est son dernier match avec le Liverpool au niveau de la Champions League. Lui, il l'espère pas. Donc, je pense que lui, déjà, il va montrer qu'il était à la hauteur de l'année dernière, où il avait été, on va dire, maîtrisé par Nuno Mendes.
Mendes.
Il avait été maîtrisé, il était passé un peu au travers de ces deux matchs, au match aller et au match retour. Donc je pense que les joueurs du Liverpool ont envie d'une bonne revanche contre le PSG. Je pense que ça va nous faire un très bon match, surtout qu'on a vu qu'actuellement le PSG est vraiment une équipe qui est en train de sortir un peu comme l'année dernière, où ils ont eu des difficultés à se qualifier. Là, c'est un peu la même chose, quoi, difficulté à se qualifier, et maintenant ils sont en train de jouer un foot qui donne beaucoup de plaisir à regarder.
Alors qu'en face, Liverpool vient de prendre une sacrée déculottée face à Manchester City, 4-0 en Coupe d'Angleterre. Yonti Danner, avant une rencontre décisive face à Paris, ça ne met pas en confiance?
Non, c'est une équipe, il me semble, en fin de cycle. Effectivement, ils ont durant 3-4 saisons réussi à, que ce soit au niveau national ou sur la scène européenne, à maintenir un haut niveau de résultats. Là, effectivement, c'est plus difficile, et que ce soit eux ou comme Arsenal aussi, a du mal à enchaîner. Entre coupe nationale, championnat et Coupe d'Europe, c'est vrai que chaque week-end, ils sont attendus, et c'est bien ça le plus difficile.
Un petit mot pour terminer, Ricardo Baroni, avant de passer à vos coups de cœur, messieurs.
On espère un très beau match, et que je voulais lui demander si le changement d'entraîneur était une des causes de ce trou qui a l'équipe de Liverpool.
Durant une saison, il me semble, ils ont surfé sur la réussite du coach Jürgen Klopp. Et là, c'est effectivement, encore une fois, ce sont des standards très très élevés qui sont très durs à maintenir sur le très long terme. À part quelques coachs et quelques entraîneurs qui parviennent, mais on sait que c'est extrêmement difficile.
Avec des joueurs en plus qui sont partis, on pense notamment au défenseur qui a signé au Real Madrid, d'autres qui sont en fin aussi de cycle. Vous le disiez, c'est un fin de cycle avec Mohamed Salah, Van Dijk aussi. Voilà, c'est ce qui fait aussi que le championnat anglais et les équipes d'Angleterre peuvent se le permettre aussi, parce qu'il y a toujours 5-6 clubs anglais qui performent et qui sont là au plus haut niveau.
Oui, oui, mais après, on le voit, le grand Real Madrid est en difficulté actuellement. Encore une fois, c'est le football de haut niveau ne pardonne rien. Et encore une fois, le mariage entre ces institutions, les entraîneurs et les joueurs qui composent ces effectifs fait que le moindre détail est important.
Ça promet donc une belle fin d'année en Ligue des Champions, notamment avec ces grands clubs qui sont, comme vous le disiez, en difficulté, d'autres qui performent. On suivra ça bien évidemment cette semaine avec les quarts de finale de cette Ligue des Champions. On va passer à vos coups de cœur rapidement, messieurs, puisque l'heure tourne. Léana Colombo est déjà derrière la porte pour entrer dans le studio pour Info Soir. Pierre Forest, votre coup de cœur ce soir?
C'est dans le rugby hein, et sur la Champions Cup avec mon coup de cœur pour Peato Movaca, qui a certes marqué 2 essais contre Bristol, mais qui revient bien, qui a été titularisé. C'est vrai qu'il est resté longtemps suite à une opération du genou convalescent et il avait du mal à retrouver sa place de titulaire, notamment avec Marchand qui est aussi international en équipe de France. Donc là, on espère qu'il a non seulement marqué 2 essais, mais il a été très précis sur ses lancers, il a été très présent dans le jeu. Donc on espère que c'est
ça va continuer,
le retour de Peato pour la fin de saison.
Un vrai retour de Peato, le Calédonien. Merci. Ryan Lachny.
Gros coup de cœur à Mino Durand qui était en déplacement avec le CTE cyclisme au championnat d'Australie et qui nous ramène 2 médailles de bronze. C'est un beau résultat et je le félicite.
Jeune U15, très, très performant, médaille de bronze en poursuite et en...
Et en sprint.
Et en sprint, exactement. Donc en Australie avec les moins de 15 ans calédoniens. Ricardo Baroni, votre coup de cœur.
Mon coup de cœur, c'est pour l'animateur de cette émission, Léo, qui ne m'a pas posé de questions sur l'équipe nationale italienne.
Et il y en aura la semaine prochaine.
Alors mon coup de cœur, c'est pour l'équipe, la Squadra Azzurra. Alors, et effectivement, si on peut faire un lien, peut-être, ça servira peut-être enfin de déclic pour remettre la formation au goût du jour et remoderniser le football italien qui en a besoin.
Avec notamment un nouveau sélectionneur qui devrait arriver puisque Gattuso et l'Italie, c'est terminé. Messieurs, merci beaucoup pour cette semaine sportmidable. On se retrouvera la semaine prochaine. Place tout de suite Info Soir avec Léana Colombo.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportmidable sur Radio Rythme Bleu.